Je suis chef de projet éco-destination au sein du parc naturel régional des Langues de Gascogne. Ce projet éco-destination tend à accompagner les acteurs du tourisme vers des démarches de progrès qui sont propres aux enjeux du tourisme durable, à savoir des actions de professionnalisation, de qualification de l'offre et tout un panel d'outils pour accompagner ces acteurs vers le changement.
Ce projet d'éco-destination, je te propose qu'on y revienne un petit peu plus tard. Mais pour commencer, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est, selon toi, le tourisme durable.
C'est drôle, j'ai eu les mêmes questions par des étudiants et des chercheurs pour justement définir cette notion de durabilité dans le tourisme qui me paraît un petit peu antinomique de parler de durable quand on parle de séjours touristiques qui sont relativement courts. Moi, j'utiliserais plutôt le terme d'éco-responsable, même s'il peut être maladroit et mal interprété par les clients, à savoir qu'il peut être relativement moralisateur. Bon, si on parle globalement d'un tourisme alternatif, selon moi, c'est un tourisme qui arrive à concilier les enjeux de la nature, l'environnement de manière générale, et la rencontre avec les habitants et le développement local. Donc on est vraiment sur une approche à trois piliers du développement durable, les enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Et le manifeste que vous avez signé, le plan de transformation du tourisme qui a été signé par le parc régional, est-ce que ça s'inscrit là-dedans? Est-ce que c'est justement un texte qui découle de la période qu'on vient de vivre ou c'est quelque chose qui était déjà en réflexion avant?
Alors, ce manifeste, il a été réalisé par un réseau qui s'appelle Acteurs du tourisme durable, dont le parc naturel régional des Langues de Gascogne est membre depuis cette année. Donc, c'est un réseau d'acteurs qui fédère aussi bien acteurs publics que privés, petits indépendants comme le groupe Accor. L'idée est de partager des bonnes pratiques et des ressources autour des enjeux du tourisme durable. Donc, c'est un réseau qui est très intéressant et qui œuvre depuis plusieurs années pour sensibiliser les pouvoirs publics et aussi les clientèles touristiques vers un tourisme davantage respectueux. Ce travail de manifeste, il était déjà dans les tiroirs bien avant la crise du Covid, à savoir la sensibilisation des pouvoirs publics pour soutenir des initiatives en faveur d'un développement durable du tourisme, que ça soit sur les questions d'aménagement et de mobilité, ce qui est aujourd'hui le plus émetteur d'émissions de CO2 dans le tourisme, c'est évidemment les transports. Et aujourd'hui, on constate évidemment une volonté des clientèles à partir à l'autre bout du monde avec des low cost et pas forcément la possibilité de se rendre dans des régions touristiques françaises facilement. Donc il y avait déjà cette première entrée de la mobilité et aussi évidemment les enjeux d'accueil pour tous, aussi bien de public en situation de difficulté ou de précarité financière. La mixité aussi tout simplement de ces publics, de ne pas cloisonner des personnes souffrant de difficultés financières avec des personnes ayant un pouvoir d'achat important, mais plutôt de favoriser la rencontre de ces différents types de publics et évidemment les publics dits empêchés, à savoir les publics souffrant de handicap physique ou mental. La finalité évidemment de conforter la place de la France en tant que première destination touristique mondiale, mais en intégrant des nouveaux indicateurs de performance. Aujourd'hui, on reconnaît un territoire touristique par rapport à des indicateurs économiques, à savoir le PIB, le chiffre d'affaires, la taxe de séjour. Ce sont uniquement des chiffres économiques et l'idée aussi de ce manifeste et du réseau d'acteurs du tourisme durable est de sensibiliser sur les indicateurs de performance sociale et environnementale d'un territoire touristique. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment dans la tête des adhérents et des membres d'acteurs du tourisme durable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas visible auprès des visiteurs et ce n'est pas soutenu par les pouvoirs publics.
Donc en fait, là, l'idée, c'est que, comme à l'image d'un petit peu de notre consommation alimentaire, c'est de réimaginer un tourisme local qui se concentre plutôt à l'intérieur du pays.
C'est exactement ça. La difficulté est de traduire cette volonté de dépaysement des clientèles qui recherchent du coup l'exotisme à l'étranger, de les inciter à rester en France, parce qu'il faut savoir que la France est quand même un territoire qui est extrêmement riche, varié en termes de paysages, de cultures, de terroirs. Donc on peut tout trouver en France, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé. On a toutes ces richesses-là à proximité de chez soi, et ce manifeste aussi tend à apporter du sens et d'inviter les Français à découvrir la France autrement, tout en limitant l'impact environnemental de leur séjour touristique.
Le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant.
Alors, tu as évoqué un petit peu les vols low cost et les compagnies aériennes. Je suis tombée sur quelques articles qui parlaient des lobbies et de l'économie. Est-ce que tu penses que la balance va finir par pencher pour le côté environnement-écologie plutôt que le côté économie après la crise qu'on vient de traverser ?
Je pense que les gens, après cette crise, auront envie de retrouver les proches, de pouvoir retrouver leur bar ou leur restaurant préféré. Je pense que les gens ont véritablement compris ce qui était important en cette période de crise. Alors certes, il y aura quand même une part de gens qui attendent la fin de l'ouverture des frontières pour repartir à l'étranger, mais les gens ont aussi pris conscience que de pouvoir découvrir leur territoire à proximité, dans cette zone des 100 km, c'est ce que font les parcs, c'est ce que font beaucoup de territoires touristiques, d'offices de tourisme, d'essayer de développer une offre qui a du sens à proximité, donc du coup moins impactante pour l'environnement, mais qui contribuerait aussi à développer l'économie locale, à soutenir les commerçants et artisans qui ont clairement souffert de cette crise, de redynamiser l'économie française et l'économie locale à travers justement l'accueil de touristes et des touristes de proximité. Donc il y a tout ça aussi qui nous attend demain, aujourd'hui même, avec cette fin de confinement, même ce déconfinement partiel, et l'invitation des Français à rester en France pour soutenir l'économie française. C'est ce que beaucoup de territoires touristiques, dont le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, invite à les Noaquitains à rester en Nouvelle-Aquitaine cet été, de découvrir ou redécouvrir leur région et de soutenir surtout l'économie locale, l'économie touristique étant une des économies des plus importantes sur la région.
Alors, tu l'as évoqué un petit peu au début de cet entretien. On en avait parlé, je crois que c'était il y a 2 ans, quand vous aviez organisé au parc le forum de l'écotourisme ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus exactement l'intitulé en tête. Et donc, toi, tu travailles sur l'éco-destination propre au parc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, même si tu l'as déjà évoqué au début, et me dire si c'est, selon toi, une clé pour le tourisme demain.
Alors du coup, malgré son nom, le projet Éco-Destination que la chance d'animer n'a pas vocation à devenir une destination touristique à part entière, mais plutôt d'apporter une patte éco-responsable au sein des destinations touristiques existantes. Ça peut être la destination Land à l'échelle du département, ça peut être les vignobles bordelais avec le Sauternes et Graves, ou le bassin d'Arcachon qui est en partie sur le territoire du parc naturel régional. Donc nous accompagnons les offices de tourisme et l'ensemble des acteurs du tourisme vers le progrès, vers l'intégration des enjeux du développement durable dans la gestion de leur activité et la sensibilisation des clientèles. C'est pourquoi depuis à peu près 1 an et demi, nous avons créé un réseau d'acteurs engagés qui s'appelle le Cercle des Imaginataires, avec un slogan « Carnet d'escapades éco-positives ». Donc ce réseau fédère aujourd'hui à peu près une quarantaine de prestataires, tous volontaires pour engager le changement dans la gestion et la promotion d'un tourisme différent, un tourisme qui a du sens. Le slogan des parcs, c'est « Un autre tourisme s'invente ici », on s'y retrouve pleinement au niveau des Langues de Gascogne. Donc ces acteurs, ils œuvrent au quotidien pour changer l'impact qu'ils ont sur un territoire, impact positif au niveau économique et humain, limiter l'impact négatif sur l'environnement. Donc on a tout un panel d'outils qui sont mis à leur disposition, et ces imaginateurs, donc ce sont des individus engagés qui souhaitent vraiment engager le changement dans le secteur touristique, mais ce sont aussi des acteurs qui œuvrent dans d'autres secteurs hors tourisme. Ce sont des véritables ambassadeurs de notre territoire langue de Gascogne, avec ce slogan escapade éco-positive. Donc l'escapade, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le clin d'œil au dépaysement à côté de chez soi. Pas besoin d'aller jusqu'à Cuba pour siroter un mojito, on en trouve à base de sauternes ou d'armagnac sur notre territoire. Pas besoin d'aller jusque dans le golfe du Morbihan pour manger les meilleures huîtres, on en a sur le bassin d'Arcachon avec le climat en plus. Bon, même si le climat n'est pas aujourd'hui top.
Ouais.
Et du coup, voilà, donc depuis le confinement, on a profité justement malheureusement de ce confinement et de cette crise pour valoriser aussi ce qu'on fait, mais ce qu'on fait depuis 50 ans. Le parc des langues de Gascogne a 50 ans cette année, et nous réalisons une fois par semaine des chroniques éco-positives, donc clin d'œil à notre slogan d'escapade éco-positive. Ces chroniques, elles tendent à valoriser nos acteurs imaginataires un petit peu sur l'esprit d'un carnet de système D pour limiter son impact et de profiter de ce confinement pour prendre soin de soi, de prendre soin de sa maison, de prendre soin de l'environnement. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à les rédiger et d'interviewer ces imaginateurs qui sont vraiment des personnes formidables et avec qui on aime beaucoup travailler. Donc c'est comment faire ses produits d'entretien zéro déchet et fait maison, c'est comment chouchouter son jardin et accueillir la biodiversité et certains insectes dans son jardin, c'est pour la dernière chronique une initiation découverte à la pleine conscience avec un gîte sur le secteur landais qui propose justement des formations de pleine conscience à ses clients durant des stages ciblés. Donc voilà, une fois par semaine, on met à l'honneur nos imaginataires pionniers qui sont inspirants et aspirés, et on essaye d'écrire une petite histoire sur eux et de donner des petites astuces système D à nos lecteurs, et tout ça va permettre d'alimenter aussi nos supports de communication pour valoriser autrement le tourisme sur le territoire. Pas forcément des actions de communication qu'on va directement gérer au niveau du parc, mais on va plutôt apporter du contenu à nos partenaires, notamment les départements et la région, parce que voilà, on n'a pas forcément les moyens de communiquer, et puis c'est pas dans le cœur de métier des parcs de faire vraiment de la mise en marché de séjours touristiques, mais plutôt de travailler avec des experts. Donc on a évidemment les partenaires institutionnels que j'ai cités, mais on a aussi des partenaires privilégiés à vocation commerciale comme des agences de voyage. On a une agence de voyage qui est sur le territoire du parc qui s'appelle Chemin Solidaire, qui travaille sur le concept de micro-aventure avec une entrée solidaire. On travaille avec la plateforme, une communauté d'hospitalité qui s'appelle les Oiseaux de Passage, qui fait du récit de destination où vraiment les habitants sont au cœur de l'accueil touristique. On travaille avec tout un panel d'acteurs engagés, publics comme privés. Et on espère pouvoir contribuer à un meilleur tourisme. Et on profite de cette crise et de cette remise en question du secteur touristique pour valoriser ce qu'on fait depuis 50 ans.
Le jour d'après ne comptera pas un retour au jour d'avant.
Caroline, tu es la première invitée ou ma première interlocutrice pour cette nouvelle chronique sur le monde d'après qui ne sera pas le monde d'avant, comme l'a dit Emmanuel Macron. Alors, j'aimerais savoir pour finir, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le monde d'après? Qu'est-ce que tu imagines pour demain?
Je vais être plutôt dans la catégorie des gens optimistes. J'espère, et au fond de moi, je suis persuadée que les gens vont prendre conscience que cette crise était peut-être une alerte des dérives de notre société de consommation, quelle qu'elle soit, que ça soit dans l'alimentation, les transports, le tourisme aussi. Et j'espère que les gens vont prendre conscience de ce qui est important au quotidien, c'est ses proches, c'est flâner à plus d'un kilomètre et plus d'une heure de chez soi. Et j'ose espérer que les citoyens, que les consommateurs vont prendre conscience de vivre autrement, de consommer autrement, de privilégier l'économie locale. On voit un boom du soutien d'agriculteurs avec des drives de produits locaux, ces drives de produits locaux qui fonctionnaient déjà très bien avant la crise et qui sont en train d'exploser. J'espère vraiment que les gens vont privilégier la qualité à la quantité. Moi, j'ai une position personnelle, c'est vivre mieux. On est sur de la qualité et pas de la quantité. Donc que ça soit sur l'alimentation, sur ses achats, sur ses vacances. Donc partir plus souvent, peut-être moins longtemps, partir moins loin, mais plus souvent aussi. Donc ça s'applique vraiment à tous les secteurs. Manger moins de viande, mais manger de la qualité et du local, et de prendre conscience de l'impact positif comme négatif qu'on peut avoir dans sa consommation au quotidien.
Merci beaucoup Caroline et à très bientôt.
Merci beaucoup Margot, à bientôt.